chantera la misère, c'est la faute à Voltaire. Je ne voudrais pas mourir sans avoir caressé la plus belle des femmes. Guernesey, être en prison à Guernesey. Entendre les voix qui délirent en dérivant. L'aimer même trop, c'est la faute à Rousseau. Je ne voudrais pas mourir avant d'avoir brûlé de ma dernière flamme. Avant de quitter la terre, je te salue, Voltaire. De Guernesey.
Avec Jean-Baptiste Foulquier dans le Ferry Club sur Radio Libertaire, nous parlons cette semaine de William Scheller et nous venons d'écouter la chanson Guernesey, tu nous disais, sur des paroles de Bernard Lavilliers, en référence à Victor Hugo. Et alors figure-toi que sur cette chanson et sur cet album, on a l'intervention d'un saxophoniste qui s'appelle Pierre Gosset, qui est un saxophoniste qui a travaillé avec Léo, notamment sur l'album Les Fleurs du Mal en 1957.
D'accord.
Et c'est pas le seul musicien qu'on
non,
peut croiser.
Non, hein, ouais, c'est pas le seul.
Dans la, tu veux nous le dire?
Alors, il y a Ripoche.
Voilà, Michel Ripoche, Michel du groupe Ripoche. Zoo, hein, du groupe Zoo, qui est un violoniste
qui
du groupe
violoniste,
Zoo,
voilà.
Et qu'on entend sur l'album Dans un vieux rock'n'roll en 1976.
Oui, c'est ça, il fait partie de la bande de musiciens que William Scheller va constituer pour ses premiers albums.
Et alors figure-toi que cet album, Dans un vieux rock'n'roll, les photos de cet album sont signées de quelqu'un qu'on connaît aussi, hein, dans l'œuvre de Léo, puisqu'il s'agit d'Alain Marouani, qui est l'auteur des photos, notamment de Il est 6h ici et midi à New York, ou encore de l'album Les Loubards, et également de l'album Au Théâtre des Champs-Élysées en 1984, dont nous parlions un petit peu plus tôt en évoquant la grand-mère de William Scheller.
J'avais pas prévu spécialement de l'évoquer, en tout cas j'avais pas choisi d'extrait, encore une fois parce qu'il faut choisir, mais William Scheller a également enregistré un album, enfin un double album, au Théâtre des Champs-Élysées. Ça a été l'album, je crois, pour fêter ses 30 ans de carrière. Et alors c'était une soirée énorme puisqu'il a chanté 45 chansons, je crois que ça a duré 4 heures, avec un entracte d'une heure au milieu. Il avait son fils et peut-être même son petit-fils sur scène avec lui. Son fils est guitariste et il avait son père. Donc voilà, il y avait 4 générations de Scheller sur scène à un moment donné. Enfin, c'était une soirée magnifique. Il avait vraiment à cœur que ce soit sur cette scène que se fasse le bilan, enfin les voilà, des 30 ans de musique. Et le regret qu'on peut avoir, c'est que ça n'a pas été filmé. Donc il y a un double album qui est sorti avec 17 chansons, mais 17 chansons sur 45 chantées. Donc voilà, le témoignage officiel ne prend qu'un petit bout de la soirée.
Ouais.
Mais les témoignages des gens qui ont eu la chance d'y assister, et que c'était une très très belle soirée, très émouvante pour l'artiste et pour le public.
J'imagine bien.
Mais c'est vrai qu'il y a ce qui était étonnant, parce que j'ai un peu regardé, j'ai trouvé aucun témoignage de William Scheller sur Léo Ferré, ni à ma connaissance aucun témoignage de Léo Ferré sur William Scheller, parce que William Scheller ayant commencé en 75, on peut penser que Léo a entendu ses chansons comme tout le monde, quoi. Il a pendant un certain temps, y compris donc quand William Scheller avait à sa disposition des orchestres classiques, comme en 87 et plus tard. Et donc voilà, par contre, des connexions, des gens qui ont travaillé avec l'un, avec l'autre, d'une façon ou d'une autre, il y en a beaucoup. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de connexions indirectes, et on n'a pas de traces d'une connexion
directe.
Voilà.
Ouais.
Ou des gens qui écrivent sur William Scheller et qui, à un moment donné, vont comparer à Léo Ferré. Bah, si on prend des artistes qui font du piano-voix, ça, c'est un secret pour personne, William Scheller joue du piano et joue en piano-voix par moment. Et ben, quand on va penser à un autre artiste incroyable en piano-voix, on va penser à Léo.
Il y en a d'autres,
mais en tout cas, en référence, comme grande référence dans la chanson française, on va penser à eux deux. Il y a quelque chose qui les rassemble aussi, au-delà de tout, c'est le fait que ils sont compositeurs, mais compositeurs dans le sens classique du terme. On est tous, quand on écrit des chansons, des auteurs, compositeurs, interprètes, là, les fameuses ACI. Mais ça, c'est le statut officiel. Pour écrire une chanson, moi, je me considère plus comme un mélodiste. Être mélodiste n'empêche pas de connaître un minimum l'harmonie, de savoir s'accompagner avec un instrument et de produire un arrangement. Mmh. Mais ça ne va pas jusqu'à écrire des scores d'orchestre, être capable d'écrire une symphonie ou en tout cas une œuvre classique avec tous les instruments du score.
Voilà, bien sûr.
Or, il faut le dire, si c'était pas clair, William Scheller, il sait faire ça. Il s'est mis à l'informatique musicale comme tout le monde dans le courant des années 90, mais tous les arrangements qu'il a écrits avant, toutes les œuvres concertantes, symphoniques qu'il a écrites avant, il l'écrivait au papier et à la gomme.
Donc un vrai point commun avec Léo.
Hein, c'est vrai que des artistes les plus connus, c'est vraiment les deux aussi qui reviennent là-dessus. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant, même dans le Ferré Club, d'évoquer William Scheller à ce titre-là, outre la qualité aussi de leur œuvre. Et donc dans cet album Univers, William Scheller commence à disposer vraiment de moyens techniques très très forts et d'orchestre. Et c'est vrai que un titre que j'ai envie de partager s'appelle Le Nouveau Monde. L'introduction est vraiment écrite sur les principes de la musique baroque. Donc voilà, ça ne peut être fait que par quelqu'un qui a étudié, qui maîtrise complètement, qui s'est intéressé, qui s'est dit mais ça me passionne, je vais aller voir comment on écrit la musique baroque, et qui s'est inventé une musique baroque, et qui s'est l'amener après à rejoindre l'univers de la musique contemporaine. À un moment donné, t'as une batterie qui rentre, t'as plusieurs parties dans la chanson, et tu arrives dans une chanson qui va être top 50.
Ah ouais, quand même.
C'est ça qui est fort, c'est que là, on a quelque chose, l'album fonctionne du tonnerre, et il ramène encore de nouveaux publics, le public se rajeunit à chaque fois, ça touche vraiment les gens, et avec de la musique faite d'une qualité...
La musique un peu savante.
La musique savante, voilà. Hein, la musique savante. Et donc, voilà, c'est cette... et ça, c'est possible parce que, d'abord, William Scheller aime la musique, et je pense que la notion d'amour de la musique, depuis le début, voilà, elle relie William Scheller et Léo aussi, hein, à travers les générations. Et donc, il y a cette envie de toucher les gens. Léo disait, la musique, une belle musique, c'est une musique qui fait pleurer. Alors, c'est aussi une musique qui peut te faire sortir de joie, enfin te faire ressentir, mais c'est quelque chose qui te remue profondément, qui va dans le fond des tripes, quoi. Et voilà, je pense que c'est cet amour de la musique qui anime aussi toute la carrière de William Scheller et de toutes les musiques. C'est quelqu'un de très curieux, et voilà, on va écouter Le Nouveau Monde.
souffrez que mes mots dépassent le peu de raison que je tienne quand vous laissez ma peine en disgrâce. Devant votre indifférence, je perds un amour immense pour lequel j'avais au départ, comme au jeu de hasard, peu de chance. Des maisons de France, avec leur magnificence, n'égaleront jamais en vous cet orgueil qui se joue d'insolence. Des opéras de misère vous feront gloire de l'enfer. En découvrant le goût de l'absence.
Ferry Club sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste. Je suis avec Jean-Baptiste, aujourd'hui Jean-Baptiste Foulquier, et nous parlons de William Scheller. Et nous venons d'écouter à l'instant même la chanson Le Nouveau Monde, parue sur l'album Univers, sorti le 19 janvier 1987.
Voilà un album qui a cartonné, qui a ouvert un nouveau public et qui est représentatif d'une période très 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 chargée. Parce que William Scheller va faire des concerts. L'année suivante, il va même prendre le temps d'écrire un album pour sa copine Nicoletta, qui veut faire un spectacle avec une œuvre de Victor Hugo. C'est un peu une sorte de Notre-Dame mise en scène avec des danseurs. Et donc William Scheller va mettre en musique Victor Hugo et c'est chanté par Nicoletta. Il y a un témoignage qui n'a été produit qu'en 33 tours. Ce qui fait que moi, perso, j'avais totalement zappé ce truc-là. J'en ai eu connaissance parce que l'intégrale de Nicoletta est parue il y a quelques semaines ou quelques mois. Et voilà. Donc, tu vois, il faut quand même le faire parce que écrire comme ça un spectacle entier et orchestré, parce que c'est avec des instruments symphoniques, quand tu es sorti de l'écriture d'un album et que tu prépares le suivant, parce que l'album suivant qui s'appelle Ailleurs, il sort en 1989, donc il sort pas longtemps après. Et là, c'est pareil, c'est un album avec des grands moyens. Il y a l'orchestre de Toulouse notamment qui est mis à contribution et on passe sur des univers justement très différent. À un moment donné, tu vas te retrouver en Russie avec quelque chose qui peut faire référence à des musiciens russes. À un autre moment, je disais tout à l'heure, William Scheller se passionne pour la musique classique japonaise et va nous emmener du coup dans un univers musical adapté au Japon, etc., etc. Il y a plein d'ambiances et je crois que c'est un album qui a fini d'asseoir totalement la réputation de William Scheller en tant que compositeur, que compositeur, et que ça, maintenant, sa place, elle est reconnue, ouais. Elle est faite. Et là-dessus, j'ai trouvé un témoignage intéressant parce que ça, c'est ce que dit William Scheller dans une interview en 1990. Et je voudrais en lire un petit exemple parce que tu as évoqué souvent dans le Ferré Club les difficultés que Léo avait pour jouer avec un orchestre symphonique. Et là, ça semble, quand on raconte comme ça, ça semble facile pour William Scheller. Alors déjà, faut jamais oublier que dans le monde artistique, pour un projet qui se fait, il y a 10 projets qui ont été évoqués, qui ont été travaillés et qui n'ont pas abouti. Et pour William Scheller, il y en a plein comme ça. Il a envie de faire un spectacle avec tel ou tel artiste, il commence à monter un truc, il loue une salle et c'est abandonné parce que il y a pas assez de budget, parce que ceci, parce que cela. Il y a plein tout le temps de projets qui sont lancés et qui se font pas. Et puis William Scheller donne une analyse intéressante dans... Alors je vais prendre mes lunettes et lire le petit passage. Il dit ça dans le Musicien de février, la revue Musicien numéro 16 de février 90. Et on lui demande aujourd'hui que vous êtes passé du 4 heures à l'orchestre symphonique au complet. Comment envisagez-vous au prochain passage sur scène? Alors il dit, pas question bien sûr de déplacer tout un orchestre symphonique. Je vais prendre mes partitions sous le bras et j'irai jouer avec les orchestres locaux. Ça change un peu de la tournée classique, on s'installe dans une région plusieurs jours et on se familiarise avec l'orchestre. Une activité régionale qui intéresse vivement les orchestres pour toucher un public qui n'est pas le leur habituellement dans la mesure où ils bénéficient d'un support, d'une audience beaucoup plus large que ceux du classique. Alors là, je fais une petite coupure. C'est vrai que Léo le disait, ce qui est sûr, c'est que quand tu es un chanteur connu, c'est le cas de Léo quand il remplit le Palais des Sports en 75, et c'est le cas de William Scheller. Les gens viennent voir les spectacles strictement symphoniques qu'il va proposer à droite et à gauche tout le long de sa carrière. Il y en a beaucoup qui viennent parce que c'est William Scheller. Ils ne viendraient pas si c'était un compositeur classique ou même une somme de compositeurs classiques. Le fait que ce soit une vedette de la chanson vue à la télé, qu'on entend à la radio, attire énormément les gens. Et donc, William Scheller a beaucoup amené aussi de gens vers le classique. Et la fin de l'article, ça que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que, donc on est en 1990, et William Scheller nous dit « Mais ce qu'on fait, on ne pouvait pas le faire il y a 10 ans. Les musiciens ont considérablement rajeuni et on en rencontre qui maintenant, dans la vie courante, écoutent du jazz et du rock. » En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc il y a un changement de génération et qu'à l'époque où Léo se lance en voulant prendre des orchestres dans les années 70, on voit souvent des gens qui ont cette césure infranchissable entre le monde de la variété, et la variété englobe tout, la chanson de qualité, le rock, tout ce que tu veux, et la variétoche, si on veut dire un sentiment péjoratif. Oui, il y a des choses de mauvaise qualité dans la chanson, donc
oui, bien sûr.
Les gens ne voient que ça. Il y a le classique et puis il y a le reste.
Ouais,
voilà. Et donc il y a un changement de mentalité qui s'opère parce que de plus en plus de gens font du classique, mais ils peuvent aimer toutes les musiques actuelles de leur époque. Et ils sentent que le terrain était quand même plus propice que pour Léo, par exemple, voilà. D'être à la fois un artiste venant de la chanson et se faire accepter du monde classique.
On accepte davantage la rencontre entre les différents types musicaux.
Tout à fait. Alors, je suis pas sûr que le projet qui est décrit dans l'article, qui est d'aller, qui était très louable, hein, qui est tout à fait dans son esprit d'aller vers les gens. C'est-à-dire, je vais un coup à Toulouse, je vais un coup à Bordeaux, je vais un coup à Montélimar, ou ce que je veux, et je joue avec les musiciens du cru. C'est extrêmement chronophage. Parce que ce qu'il raconte là, c'est que il vient à minima avec tout le matériel, voire qu'il l'a envoyé avant pour que les gens s'entraînent. Il va passer une semaine ou deux à s'entraîner avec eux pour faire un spectacle. Je crois d'ailleurs que ça n'a pas forcément fonctionné, que ça c'est pas comme il a décrit là. Mais de prime abord, son idée c'était ça, c'était de prendre le temps de rencontrer les gens. Et c'est vrai que je pense que dans sa carrière, il a eu énormément de formations musicales différentes, mais que ça a été un investissement énorme. énorme de d'abord de faire les partitions pour les gens et après de tourner avec eux.
Oui, et puis d'aller à la rencontre à chaque date, d'aller à la rencontre de gens nouveaux.
Exactement, d'aller à la rencontre de gens nouveaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir faire. Alors c'est un peu difficile à faire aussi quand t'es quelqu'un qui aime la solitude, voilà. Quand t'as une urgence aussi à faire un disque tous les ans comme faisait Léo, donc le travail que Léo faisait de sortir un disque avec l'écriture de l'orchestre quoi tous les ans faisait, je pense que c'était très difficile d'envisager ce genre de choses.
Ah bah oui, sûr.
Et en étant en Toscane aussi,
ça n'est pas
forcément pas forcément facile. Donc voilà, il y a un peu tous ces trucs-là.
Moi, je trouve que c'est une belle disposition, bel état d'esprit de la part de William Scheller aussi, d'aller à la rencontre de gens qui sont là où il va se rendre.
Dans son esprit, je pense qu'il aime ça et il est ouvert à toutes les propositions. Déjà, depuis de nombreuses années, il a ralenti. En fait, il a arrêté la chanson il y a quelques années, après un album où il a eu des problèmes de santé et n'était pas forcément très heureux du résultat. Donc, son dernier album en date qui s'appelle Stylus, qui est sorti il y a quelques années. Du coup, il a décidé d'arrêter la chanson, d'arrêter de jouer du piano, de se concentrer sur la composition et d'être dans la transmission. Et la transmission, il y est depuis mais des décennies. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours pris du temps pour accompagner les... qui se dit, j'ai eu la chance d'être formé. C'est vrai que son maître a été quelqu'un qui lui a appris plus que la musique, un peu aussi la façon de vivre, de se tenir, de respecter les autres. Et il a cette volonté de transmettre. Il allait toutes les semaines, par exemple à un moment donné à Lyon, pour animer des masterclass pour la chanson.
D'accord.
Il a toujours composé des choses pour les artistes, pour les conservatoires, pour que les gens qui sont dans les conservatoires puissent jouer des quatuors à cordes contemporains à leur niveau, avec différents niveaux d'écriture pour différents niveaux de jeu.
D'accord.
Il a des fois il a écrit des choses pour que les gens s'entraînent au piano. Enfin, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de son temps. Jusqu'à dernièrement où Lux Aeterna, dont on a parlé tout à l'heure, donc sa messe, est ressortie, a été jouée il y a 2 ans par les élèves d'un conservatoire, je crois que c'est vers la Côte d'Opale, enfin dans le Nord, où un lycée, tu sais, où les gens apprennent la musique. Mm-hmm. Donc t'as ceux qui apprennent à chanter, à enregistrer, la MAO, la musique assistée par ordinateur, etc. Et le prof a décidé de dire on va créer une œuvre. Créé dans le sens de jouer, interpréter en concert une œuvre. Il a choisi Lux Aeterna et donc ils ont bossé et ils ont accompagné pendant 1 an pour que les gens s'approprient l'œuvre.
Scheller les a accompagnés.
Voilà, il les a accompagnés. Il était là pour le concert. Enfin voilà, il a toujours ce
souci de la transmission.
Ce souci de la transmission, c'est d'accompagner chouette. Les gens. Mmh. Plus celui dont tu as parlé en introduction, qui est d'aider les artistes quand il a un coup de cœur. Donc tu as parlé de Damien Saez. Mmh. On peut peut-être évoquer un autre artiste qui l'a aidé, Jean-Louis Murat.
Ah, Jean-Louis Murat,
voilà,
oui, d'accord.
Il a lancé Jean-Louis Murat. Voilà.
Ok, bon, on l'aime beaucoup, moi, même par ici, hein, je te le cache pas.
Bon, mais n'empêche que, voilà, c'est une attitude d'ouverture. Et en plus, c'est pas des gens qui correspondent à son style, toi, c'est pas... Il cherche pas. Il
un mini Scheller, il voilà. Cherche pas non, quelqu'un non, qui reproduise ce qu'il est. Ouais,
tout à fait.
Ouais, très bien.
Il est ouvert. Bon, si on écoutait un morceau.
Avec grand plaisir, Jean-Baptiste.
Un petit blues, tiens. Alors, je parlais du disque ailleurs et j'évoquais le fait que les styles musicaux sont très différents d'une chanson à l'autre. Mmh. Et là, c'est une petite pépite. J'aime beaucoup ce morceau. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un blues. C'est écrit, c'est un blues, vraiment un blues. Et il l'a arrangé de façon classique, avec orchestre à cordes. Donc c'est un blues joué par un orchestre classique.
Et comment s'appelle ce morceau ?
Un archer sur mes veines.
On l'écoute tout de suite ?
On l'écoute.
Sur mes veines. connaît ma nature peut témoigner sans peine de sa réserve extrême. Je ne dis pas qu'on est en, mais j'aimerais qu'on en vienne à juger les efforts que j'ai faits sur moi-même pour cacher au dehors la misère où tu me traînes. Et là j'exagère à peine, c'est comme une douleur qui saigne, comme ferait ton tyran sa rengaine, un archet sur mes veines. Comme je n'ai que des mots que j'ai pris au hasard dans des chansons moroses, celles où l'on dit qu'il est toujours trop tard pour y faire quelque chose, je reste le cœur éparpillé dans je ne sais quoi. Par les blessures des sales moments qui viennent, pour peu qu'ils me tiennent, je partagerai le sort des mauvais chiens qui traînent pour finir au bord d'une voie suburbaine. Tu viendras dire encore que j'en rajoute un peu sur le thème. Mais non, j'exagère à peine, c'est comme une douleur qui saigne, comme ferait en tirant sa rengaine sur mes veines. Comme je n'ai que des mots que j'ai pris au hasard dans des chansons moroses, celles où l'on dit qu'il est toujours trop tard pour y faire quelque chose, je reste le cœur éparpillé dans je ne sais quoi. Et je garderai quoi qu'il advienne ma réserve extrême.
Un archet sur mes veines à l'instant, un extrait donc de l'album Ailleurs, paru en novembre 1989, le huitième album de William Scheller. Et c'est sur cet album qu'on retrouve d'ailleurs la chanson Excalibur dont on nous parlait, dont le clip est signé Philippe Druillet. Et il est sorti également en 45 tours et il y a une pochette. C'est mon ami Max qui m'a informé de ça, qui m'a dit, quand je lui ai parlé qu'on allait faire une émission sur Scheller, il m'a dit, ah bah, il y a Druillet qui a fait une pochette pour un... Voilà.
Tout à fait. Alors, pour ceux qui seraient vraiment intéressés par cette histoire avec Druillet, je fais un petit aparté.
Ouais.
Je peux recommander un livre qui est sorti il y a quelques mois. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur William Scheller. J'ai essayé de regarder, j'ai trouvé une bio qui date de 2006, donc qui passe quand même sous silence une petite partie de l'œuvre assez intéressante.
Après 2006, tu veux dire ?
Ouais, parce qu'il a sorti... Alors, je l'évoque, on n'aura pas forcément le temps d'écouter des morceaux de cette époque-là, mais il y a le disque Avatar en 2008, qui est un disque que j'ai beaucoup aimé, enfin que j'aime toujours beaucoup, mais qui m'a vraiment marqué quand il est sorti, parce que il était très varié au niveau des musiques. Il y avait des climats jazzy, des climats rock, des ballades, vraiment un ensemble de très hétérogène, mais justement très intéressant de morceaux, avec toujours une qualité mélodique, des textes intéressants. Donc l'album Avatar qui est très beau, et l'album Stylus, qui est paru donc, et à un moment donné William Scheller était malade et dont il est moins content du résultat. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont pas évoquées dans la bio. Mais par contre, donc je pourrais conseiller pour ceux qui voudraient vraiment creuser, qu'un bouquin qui est paru dans des presses universitaires, les presses universitaires de Dijon. Donc ça s'appelle William Scheller, Portrait de l'artiste en symphomane. Symphomane parce que symphomane est une chanson
c'est même un album.
Très connue. Oui, c'est un album, tout à fait. C'est un album et une chanson que William Scheller a joué toute sa carrière. Et souvent, d'ailleurs, en première chanson, en introduction de...
C'est une carte de visite un peu ?
Oui, tout à fait.
Ouais,
c'est ça.
Je suis un homme symphonique.
Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Exactement. Avec justement une construction symphonique. Une introduction très très longue qui commence par des notes égrenées au piano et puis ça se complexifie. Donc une construction vraiment très atypique pour de la chanson. Voilà. C'est déjà plus vraiment de la chanson standard. Donc c'est très beau. Et donc c'est un ensemble d'études sur William Scheller.
Ce livre-là, oui.
Voilà, qui s'appelle Portrait de l'artiste en symphomane. Donc c'est des textes réunis présentés par Philippe Gonin. Et alors sont évoqués le William Scheller compositeur, notamment toute la partie compositeur de musique de film. Parce que la musique de film, c'est aussi un sujet, hein, ça pourrait en parler des heures. Moi, un de mes artistes préférés, c'est François de Roubaix, qui est un compositeur de musique de film. Donc, voilà, c'est la musique de film, c'est passionnant. Et William Scheller en a fait donc un certain nombre. Donc ça, c'est vraiment un travail de compositeur. Après, il y a tout un aspect sur l'écriture de William Scheller. Et donc les références, comme je disais, à des poètes, à Baudelaire, à Verlaine. Quand on regarde les textes, c'est très ciselé. C'est vraiment très ciselé. Donc voilà, c'est... Ça aussi, ça fait penser
à quelqu'un
qu'on connaît par ici.
Ouais.
Et donc après, bon, il y a des analyses qu'on a d'ailleurs dans des bouquins sur Léo, les analyses sur les différentes typologies de
ouais. Bah là, c'est très très technique,
ouais, très musical, hein. très musicologique. Ouais. Voilà, analyse note à note d'une ouais. version à l'autre. On a ça pour avec le temps. Et là, on l'a sur le carnet à spirale justement dont je parlais tout à l'heure. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un aspect aussi, il y a tout un chapitre très très long, très documenté sur le clip de Philippe Druyer et les relations entre William Scheller et Philippe Druyer. Parce que ça n'a pas été simple de faire à l'époque. On n'est pas aujourd'hui, il n'y avait pas les images 3D, le numérique comme aujourd'hui. Donc c'est un clip qui était très, très, très compliqué avec des effets spéciaux, plein de références cinématographiques. Et donc, voilà, il y a un article très détaillé. Donc pour ton ami Max, je le renvoie vraiment à ce livre. S'il veut creuser, il y a tout ce qu'il faut.
Très
et bien. Je sais qu'en ligne aussi, on trouve des interviews de Philippe Druyer. Il y a des sites internet de passionnés de Scheller et on trouve des choses sur ce sujet.
D'accord. Druyer qui parle de leur collaboration.
Voilà.
Et
inversement aussi, William Scheller qui parle...
D'accord.
Voilà, en fait, ils se sont rencontrés dans les années 70, vraiment très longtemps avant et ils ont dit, on va travailler ensemble un jour. Voilà. Et ils ont travaillé ensemble.
Et 20 ans plus tard, voilà, ça finit par se faire.
C'est ça, tout à fait.
Très bien.
Bon, alors, tu parlais avec le temps tout à l'heure, faut quand même qu'on y arrive.
Bah oui, quand même.
Faut quand même qu'on y arrive. Hein.
Le avec le temps de William Scheller.
Le avec le temps de William Scheller. Alors, là aussi, je vais revenir à un souvenir personnel. Donc, le avec le temps de William Scheller, il est sorti en 1991.
C'est un homme heureux, hein. Il faut
c'est un homme heureux, voilà. C'est William Scheller en solitaire, comme tu disais, au studio d'Avou. Donc alors déjà on peut dire deux mots peut-être du piano-voix et William Scheller, parce que il y a une anecdote qui est assez drôle, c'est que c'est arrivé par hasard. William Scheller déjà il a commencé sa carrière, c'était donc très télé. Les maisons de disques mettaient la pression pour faire beaucoup de disques, ils faisaient aussi des arrangements et donc il faisait pas de scène ou très très peu. Il s'est mis à la scène en 80 oui. Il a mis 5 ans, en fait, à se lancer et à faire de la scène. Il se sentait pas trop. Il a été encouragé par ses amis artistes. Et là, il a attrapé le virus. Donc là, c'est parti. Il a fait un premier Olympia en disque, je crois que c'est 82, le premier enregistrement. Et là, c'est, ou 81, c'est le groupe classique qu'on trouve dans les artistes chansons rock qui passent sur scène. Voilà, rien de... Et à un moment donné, il va faire un concert en Belgique. Je vais dire deux mots de la Belgique. On sait que la Belgique est importante pour Léo. Et elle est très très importante pour William Scheller. Donc là, ça fait aussi un point...
Pourquoi ?
Et ben parce que déjà, tu vas voir, il y a la révélation du piano-voix. Et quand on parlait des musiciens, le fait que William Scheller tourne des fois avec des groupes constitué très important. Il n'a pas forcément été jusqu'au bout de dire je vais à droite à gauche et jouer avec les locaux, mais par contre il a souvent eu des groupes avec 25 musiciens. En gros, il alternait, il faisait une tournée piano-voix, une tournée 25 musiciens, tout ça. Et tous ces musiciens étaient belges.
Ah, d'accord.
Voilà. D'accord. Et ça, tu le retrouves aussi avec d'autres artistes, comme Bachung, par exemple, qui le témoigne. Dans les années 70, bon, après, ça a peut-être changé, mais il y a un état d'esprit des musiciens de studio, et musiciens de scène, qui sont, tu sais, du genre à désaccorder. Ils sont payés par séance de 4 heures. Ça, c'est Bachung qui le raconte. Et 5 minutes avant la fin de la séance, ils se désaccordent pour que la prise soit fausse, fausse, et que du coup, il faille reprendre une session de 4 heures, même s'ils jouent que 10 minutes.
Pour cachetonner. Ah, d'accord.
Ouais. Donc, un état d'esprit, tu vois. Et donc, Bachung, il finit par aller en Belgique, et là, il trouve.
Une autre mentalité.
La mentalité, ouais. Il trouve des gens qui sont à la fois. Il va en Angleterre, mais en Angleterre, le problème, c'est que les gens parlent anglais.
Oui.
Enfin, toi, c'est ce que disent des proches. Hein. Tu vas à l'étranger, ils parlent tous étrangers, quoi. Ouais, c'est terrible. Ouais, donc, Bachung n'est pas bilingue, il a du mal. Voilà. Et en Belgique, il va trouver le compromis idéal. C'est-à-dire des gens qui ont l'esprit du rock, qui ont le même esprit que les anglo-saxons par rapport à la musique, et qui n'ont pas le côté je m'en foutiste de certains musiciens en France. Et à un moment donné, ça a tellement bien marché avec la Belgique pour William Scheller, qui va s'installer quelque temps à Bruxelles, il va y habiter, il va rencontrer des musiciens, il va monter son groupe en Belgique, et il est resté très attaché à la Belgique. Il a d'ailleurs un album live très intéressant qui est sorti en 2005, qui s'appelle Parade au Théâtre Royal de Bruxelles, je crois, quelque chose comme ça, qui est aussi l'occasion du seul DVD de William Scheller en concert. Et donc, la Belgique était un point obligé de passage pour William Scheller en tournée, d'autant plus que la plupart de ses musiciens, en tout cas le groupe fixe qu'il avait constitué, était de musiciens belges de très haut niveau.
D'accord.
Et alors, à l'époque, il a encore des musiciens français et il va faire un concert en Belgique. Et là, il y a un musicien qui fait une blague, peut-être une blague belge, je sais pas, mais ça plaît pas aux douaniers. Et donc le douanier laisse passer les musiciens, mais il retient les instruments.
Oh putain.
Donc William Scheller se retrouve à Bruxelles, devant faire un concert, et là on lui dit, oui mais on ne peut pas l'annuler, votre concert est retransmis à la RTBF. Ça passe à la télé, monsieur.
Ah ouais.
Ah. Donc coincé, et là du tac au tac, il va jouer tout seul au piano. Ces musiciens sont là, mais ils n'ont pas d'instruments, donc ils ne servent pas à grand chose. Et donc, il raconte au début, il est resté sur le feeling des derniers concerts. Donc, il appuie comme un malade et il chante comme un malade parce que pour chanter plus fort que le batteur et que le guitariste, il n'y a plus de guitariste.
Ils sont pas là,
ouais. Ils sont pas là. Donc, d'un seul coup, il s'aperçoit qu'il peut chanter calmement, puis que les gens, ils écoutent. Ils entendent vraiment les paroles. C'est la révélation totale.
Oh, super.
Et c'est de là que naît la formule piano-voix qu'il va faire régulièrement.
D'accord.
Et donc.
Il peut presque remercier cette saloperie de douanier, alors.
Bah oui, oui. Et puis son musicien qui fait des
mauvaises blagues.
Des blagues belges.
C'était quoi, alors, la blague? On sait.
Ah, je sais pas. On sait pas. On sait que c'est le bassiste qui a déconné, mais bon. C'est toujours compliqué, les bassistes.
Ouais, mais les douaniers aussi.
Les douaniers aussi, ouais. Mais il n'y en a plus. Par contre, les bassistes.
Il en reste.
Quand t'es obligé.
Mais il en reste des douaniers, hein, malheureusement.
Et c'est vrai, il en reste toujours. Donc, voilà, William Scheller a en général fait des tournées, tu vois, un coup, tournée acoustique, tournée, une fois tournée avec des musiciens. Et là, en 91, il fait une tournée au piano, avec toujours un gros succès. Et je ne sais plus pourquoi, il est question d'enregistrer le concert à l'Olympia, ça ne peut pas se faire, et c'est pour ça qu'il va enregistrer au studio d'Avou, pour rattraper le coup, et donc enregistrer dans de bonnes conditions, devant un petit public, un album qu'il aurait dû enregistrer en live à l'Olympia.
D'accord.
Et là, paraît un homme heureux. Rapport avec le temps, tiens, un rapport. La maison de disque n'y croit pas du tout. Ou une chanson triste, mon Dieu. Ça n'intéresse personne, c'est bien connu, chanson triste. Alors moi, je me rappelle à l'époque, j'étais étudiant, je venais d'arriver à Paris, j'étais dans une cité universitaire immonde. C'était un endroit tout pourri, tout dégueulasse. J'étais très malheureux. Donc c'était une période pas terrible. Et je me rappelle, j'avais mon petit magnéto, mon petit réveil, voilà, radio réveil. Donc j'avais la radio et je me souviens quand j'ai écouté pour la première fois ce morceau. Et je me souviens même l'introduction du morceau, c'est-à-dire que j'étais occupé, voilà, la radio tournait, j'étais dans ma chambre, je sais pas ce que je faisais, mais et d'un seul coup, il y a un piano qui plaque des accords, et là, je me suis arrêté tout de suite. Avant, je sais pas, je connaissais pas le morceau, je savais pas qui allait chanter, mais l'introduction du piano m'a fait tout arrêter là,
génial, ouais.
Et j'ai écouté cette chanson, je me suis pris ça dans la tronche. J'ai pas tellement de souvenirs de morceaux qui m'aient fait cet effet-là. Toi, souvent, je sais que quand j'écoute un album, même un album qui après devient un album culte, un album essentiel, la première écoute est pas forcément suffisante. Tu vois de quoi ça parle et tout ça, mais tu ressens pas le truc. C'est plusieurs écoutes qui font que tu rentres dans le truc. Là, il a pas eu à chanter, il a plaqué les accords et tout arrêté.
Les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand il vous parle d'eux, il y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.
On arrive pas loin de la fin de cette émission. On a parcouru un large panel de la carrière de William Scheller,
oui,
pourtant, à travers des chansons que tu aimes.
On n'en est encore qu'à un bout, mais c'est vrai que comme parler de Léo en deux heures, c'est compliqué de parler d'un artiste qui a fait vraiment œuvre en si peu de temps. Donc voilà, on avait choisi de faire le notre possible pour donner un avant-goût et de vous donner envie d'aller plus loin. Ce qu'on peut dire, c'est qu'après l'album en solitaire, qui a eu un succès démentiel, hein,
ouais,
avec notamment cette chanson-là, mais en plus l'album en soi, il est vraiment intéressant puisque c'est une sorte de compilation des chansons, enfin de magnifiques chansons. Il n'y a rien à jeter dans cet album-là, et les versions piano-voix sont très réussies de toutes les chansons. La prise de son est très bonne, parce que c'est plus qu'un live, c'est un live capté en studio.
Ouais.
Donc la prise de son est vraiment fantastique. Et donc William Scheller, comme toujours, a eu l'impression de traîner un petit peu comme un boulet cette chanson, encore qu'il l'a jamais renié, il l'a toujours chantée, sans qu'on ait l'impression que ça lui pesait, tu vois, contrairement à Léo qui par rapport avec le temps a des fois montré des mouvements d'humeur. Mmh. Qui était peut-être dû aussi à la personne à qui ça s'adressait, c'était peut-être un autre problème. Après, il y a des versions piano-voix, il y a des personnes piano-voix et trompette. Donc
ah ouais,
c'est un peu particulier. Elle a été chantée aussi par des chœurs, un accompagnement de chœurs.
De un homme heureux?
Oui.
Ah ouais,
oui. Mais vraiment, ce qu'on peut retenir, c'est que William Scheller fait jamais deux fois de suite la même chose. Ouais. Donc après cet album très épuré, il a envie de rock and roll. Il aime aussi, notamment parce que ses enfants écoutent du rock, les The Cure, etc. Enfin, du rock moderne. Il a envie de rock. Il essaye avec des musiciens français d'enregistrer un album de rock. Ça fonctionne pas parce que maintenant qu'il est un musicien respecté, les musiciens français sont respectueux, donc il joue note à note ce qu'il donne à la musique, ce qui n'est pas l'esprit rock qu'il veut. Lui, il veut des musiciens qui se lâchent, et donc il va en Angleterre, il va trouver un quatuor de musiciens qui ne le connaissent pas, et donc il va faire un album qu'il va appeler Albion, comme la terrible Albion, et un album vraiment très très rock. Voilà, il y a une reprise d'Excalibur en hard rock, c'est avec beaucoup de travail sur le son et tout ça, de samples. Donc c'est un album très moderne qui va être très reconnu par les critiques, mais qui va vraiment déstabiliser le public de William Scheller, notamment tout le nouveau public qui a adoré l'album en solitaire, qui attend du piano-voix. Et c'est vrai que moi aussi, je me rappelle qu'à l'époque, c'était pas du tout ce que j'attendais, quoi. J'attendais d'avoir à nouveau de belles chansons au piano ou avec un environnement orchestral. Et ça avait pas mal secoué le cocotier.
Ouais, ça avait déstabilisé les gens qui étaient venus à lui avec cette formule piano-voix. Ouais.
Et après, il y aura quand même un certain temps, justement, parce qu'il veut jamais s'arrêter de changer. Donc il va essayer. Bon, il va avoir des raisons personnelles qui vont lui faire arrêter la musique pendant quelques temps.
Raison de santé.
La disparition de sa mère, en fait. Sa mère. Et donc, voilà, il prend un peu de recul aussi avec... il en a un peu marre. Il fait des tournées, il continue à faire des choses, à donner de son temps pour les gens qui apprennent l'apprentissage. Enfin, il est sur plein de projets, mais il n'y a pas d'album de chansons avant 2000. L'album Les Machines Absurdes. Il y a peut-être aussi un petit moment, une petite panne d'inspiration, où ce qui vit l'incline pas à écrire des chansons dessus, en tout cas. Mmh. Et donc, voilà, il met du temps, Les Machines Absurdes, qui font référence au fait que là, il a essayé de travailler dans l'univers de la musique assistée par ordinateur, avec voilà, tout ce que ça apporte à la composition. Et donc il fait un album qui est très orchestré et un peu avec aussi des allures un peu rock, ce qui va lui permettre d'enchaîner sur une tournée acoustique. Tu vois, à chaque fois, c'est le
au moment où il fait un album rock, il repart en piano-voix.
Il repart en piano-voix,
ouais.
C'est toujours l'idée. Et par contre, en 2005, il y a un album quand même que je vous souligne, et puis je terminerai par celui-là, parce que du coup, j'aurais bouclé la boucle. C'est l'album Épure, qui est enregistré à la maison, en piano-voix. Mais alors, là, l'idée, c'est que il enregistre une prise. Et il y a un micro d'ambiance pour la voix, un micro d'ambiance pour le piano. Et ce qui peut paraître très facile va être en fait très compliqué, va mettre beaucoup de temps, parce que bon, lui, il y a un canard qui se manifeste en plein milieu d'une chanson, la prise est foutue. Donc voilà, en fait, voilà, ça va être très très compliqué finalement d'enregistrer dans les conditions qu'il veut, donc comme une maquette, comme quelqu'un qui a son piano et qui chante le morceau, mais avec la volonté que la prise soit nickel,
de qualité, quand même,
comme un album. Ouais. C'est pas des bouts de machin qu'il a enregistré chez lui. Voilà, c'est pas des maquettes maison. Qui sont pas destinés quand Léo enregistre ses maquettes, c'est pour lui, c'est pour se souvenir et après en faire quelque chose. Donc il a pas besoin que ce soit soigné. Il a juste besoin que lui, quand il les réécoute, bah il se souvienne de ce qu'il a voulu faire et puis il dit ah oui ça c'est bien, non ça je vais corriger, etc. Là c'est vraiment j'enregistre un album et donc voilà, c'est quelque chose je crois qu'a pas beaucoup été fait, quoi. Des gens qui ont essayé de faire à la fois un album sur le vif, avec l'émotion, et en même temps, en une prise directe, avec des parties de piano assez bien, assez chiadées, quoi, quand même. Ouais. Donc voilà, l'album est pur aussi, que je recommande. Mais alors, pour se quitter, on va peut-être partir en bateau.
Avec plaisir, ouais. Ah,
c'est pas mal ça comme départ.
Ah bah,
on partirait sur un bateau en bois. Un bateau en bois qu'aurait construit le grand-père de William Scheller. Tiens, comme il a commencé dans le chantier naval, il a construit un bateau et William Scheller s'est dit, tiens, je vais faire une musique là-dessus. Tiré de l'album Albion.
Très bien.
La navale.
La navale, c'est la chanson avec laquelle on se quitte.
Ouais.
Un grand merci Jean-Baptiste d'être venu jusqu'à nous et pour nous présenter William Scheller.
Ça m'a fait plaisir.
Courant, mais s'il se doit, faut s'y faire. C'est la fin du Ferry Club.
C'est Radio Liberté.
À la semaine prochaine.
Au plaisir de vous revoir.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, vous avez certainement reconnu cette petite musique de Charlie Brown. Nous sommes le mercredi 13 mars 2024, 1h30 pour vous parler de livres, échanger avec des acteurs de la chaîne du livre, 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, Frédéric, Agnès, Marie, Dominique, Francis et notre invitée Marie-Hélène Bellac pour la biographie de Louise Michel qu'elle a publiée récemment aux éditions Perrin. Frédéric, est-ce que nous avons des annonces ?
Nous avons une annonce, c'est le Ciné de la Commune qui vous propose un documentaire de Raphaël Bruyas qui s'appelle « Schkoun, les sauvages ». C'est le mercredi 20 mars 2024 à 20h à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Alors, il y a deux métros, Oberkampf ou Fille du Calvaire. Le synopsis, c'est qui les sauvages ? La première question que se sont posées les habitants du quartier de Montreynaud à Saint-Étienne, excusez-moi si c'est pas Montreynaud, choisi comme décor principal pour la série de Canal+, Les Sauvages. Un témoignage sur les représentations en quartier populaire. Alors c'est le 20 mars à 20h, venez-y nombreuses et nombreux. Merci, Voilà, à toi Francis.
Merci. Alors le 18 mars 2024 commencent les cérémonies pour la commémoration des débuts de la Commune de Paris 1871. Parcours sur les traces de la presse pendant la Commune. Vous avez donc rendez-vous, si vous le souhaitez bien sûr, rendez-vous à 18h rue du Louvre, juste devant la Bourse du Commerce, au métro Louvre Rivoli ou bien Léal, et vous aurez un parcours ponctué de récits, notamment d'André Léo, mais pas que, tous ces journalistes, Jules Vallès et compagnie, qui ont animé la Commune de Paris et la presse de la Commune. N'hésitez pas, en plus de nous écouter, à nous écrire notre adresse postale, Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Vous pouvez déposer des livres, nous proposer des ouvrages. Nous en avons déjà reçu un certain nombre. Je tiens tout de suite à le dire pour ceux qui nous ont déjà déposé que les livres, nous les lisons. Autrement dit, nous ne répondons pas tout de suite et nous ne les présentons pas tout de suite avec une vague relecture du communiqué de presse. On les lit pour apprécier leur intérêt. Et vous pouvez aussi déposer une information sur le blog du groupe Commune de Paris. Il suffit de cliquer sur « Contact » sous la banderole qui est dessinée par